Chapitre 7. Lettre anonyme. Samedi 29 mai 2010. Ce matin-là, je profitais de l'absence de Perry, parti avec ses filles se recueillir au cimetière pour fouiller la maison. Où Hélène avait-elle pu cacher cette lettre? Ce n'était sûrement pas dans une pièce commune, mais dans un endroit plus intime. J'allais donc fouiner dans les armoires d'Hélène, ses effets personnels, sa trousse de maquillage. Je répugnais à procéder ainsi, mais je n'avais guère le choix. Mes recherches furent vaines et cela ne m'étonna qu'à moitié. Si Hélène avait voulu cacher cette lettre à Perry, son flic de mari, elle ne l'aurait pas laissée à sa portée. Comme je n'avais rien retrouvé sur son lieu de travail, ma dernière hypothèse restait sa voiture. Lansdaine avait eu l'opportunité d'inspecter l'habitacle le soir de la mort d'Hélène, mais avait-il pu le faire correctement dans l'agitation qui devait régner? Il fallait que je vérifie à nouveau. Je me rendis dans le garage où se trouvaient des vélos, un appareil de musculation et la Toyota Camry grise d'Hélène. J'observai un instant le véhicule. J'imaginais Hélène inanimée sur le siège conducteur. Puis, me résignant à ouvrir la portière, je m'installai à bord. Où pouvait être cette lettre? Je commençai par la boîte à gants, puis le vide-poche central. Rien. Je contrôlai les pare-soleils, les interstices entre les sièges. Toujours rien. Dans un geste de la dernière chance, je soulevai les tapis de sol. J'ignore pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt. Sous l'un d'eux, je trouvai l'enveloppe bleue dont m'avait parlé l'employé de la poste. À l'intérieur, il y avait une feuille pliée en deux sur laquelle apparaissait un message fait de lettres collées, découpées dans des journaux. « Carré et Donovan sont innocents ». Lorsque je montrai la lettre au chef Lansdaine, il resta pantois. Il l'examina avec attention, sans que je parvienne à déceler si son visage exprimait l'étonnement ou la circonspection. « Vous en avez parlé à Perry ?» demanda-t-il. « Pas encore. » « Carré et Donovan sont innocents », lut-il à haute voix comme pour en saisir le sens. « Innocent du meurtre d'Alaska ? » suggérai-je. Il semblerait que cette lettre soit arrivée chez les Gallowood le 6 avril dernier, soit 11 ans jour pour jour après la mort de Walter Carré. Pour être honnête, je suis aussi perplexe que vous, m'avoua Lansdaine. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ça pourrait être l'œuvre d'un plaisantin, fis-je remarquer. J'en doute, rétorqua Lansdaine. Qu'est-ce qui vous rend si sûr de vous? Le fait que cette lettre ait été envoyée à Perry. C'est Hélène qui l'a trouvée la première, mais de toute évidence, ce message s'adressait à lui. Et ce n'est pas anodin. D'une part parce que Perry est lié à l'affaire Alaska Sanders, et d'autre part parce que c'est un flic redoutable. Celui qui a envoyé ce message voulait que Perry rouvre l'enquête. Ça n'a rien d'une plaisanterie. Mais pourquoi faire ressurgir maintenant cette affaire vieille de 11 ans? Interrogeai-je. Lansdaine eut un sourire presque amusé. Vous êtes très intelligent, Marcus, mais quand même un peu naïf. Vous semblez oublier que depuis l'apparition de votre bouquin, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, tout le pays a découvert l'existence d'un flic un peu bourru, mais fin limier. À cause de vous, ou grâce à vous, des millions de lecteurs connaissent désormais le sergent Perry Gallowood. Je pense que quelqu'un s'est réveillé, Marcus, et vous en êtes peut-être indirectement responsable. La remarque de Lansdaine trouva écho en moi. Je m'étais demandé jusque-là pourquoi Hélène n'avait pas sollicité mon aide. La réponse était simple. Elle souhaitait probablement éviter que je m'en mêle aussi. Je dis à Lansdaine. Hélène savait que si Perry prenait connaissance de cette lettre, il allait rouvrir l'enquête. Elle ne voulait pas qu'il se replonge dans cette affaire qui l'avait déjà passablement ébranlée. Mais Hélène, avec son tempérament, ne pouvait ignorer ce message. Elle a probablement cherché à en savoir davantage afin de décider s'il fallait en parler à son mari malgré tout. À force d'investigation, elle a fini par déterrer un indice suffisamment probant pour vouloir avertir Perry. Mais elle est morte avant de pouvoir le faire. Le soir de sa mort, Hélène avait découvert quelque chose, j'en suis certain. Mais quoi? La réponse se trouve dans cette lettre. Lansdaine acquiesça d'un signe de tête, puis me demanda « Par où commence-t-on ? » « C'est vous le flic ? » lui fis-je remarquer. « Vous pourriez faire analyser cette lettre ? » Inutile d'essayer d'y trouver des empreintes. Entre nous, l'employé de la poste, Hélène et je ne sais pas qui, la moitié de la ville a mis ses doigts dessus. Et puis je pense qu'on devrait avancer de notre côté avant d'en parler à d'autres flics si vous ne voulez pas que ça remonte aux oreilles de Perry. D'ailleurs, êtes-vous bien certain de vouloir continuer à le tenir à l'écart de tout cela? Certain. Ce n'était vraiment pas le moment d'ajouter des tracas à Perry. Il s'était mis en congé pour quelques semaines au moins, selon ses dires, et passait ses journées à errer dans la maison. Il avait besoin de se concentrer sur lui-même, sur sa famille. Il devait avant tout se reconstruire, et non pas affronter les fantômes d'une vieille affaire. Aussi, durant les 3 jours qui suivirent, je mis à profit les absences de Perry et ses filles pour enquêter dans la plus grande discrétion. J'étudiais le GPS de la voiture d'Hélène pour y vérifier les dernières destinations. Malheureusement, rien n'avait été enregistré. Je fouillais dans la boîte mail de l'ordinateur familial, mais sans succès. Je retraçais ses journées en épluchant son agenda retrouvé dans son sac à main, mais ce fut sans intérêt. Je fis également mes propres recherches sur l'affaire Alaska Sanders. Cependant, les informations que je trouvais sur Internet étaient relativement limitées. Je découvris néanmoins l'existence d'une association appelant à la libération d'Eric Donovan. Dans un cybercafé de Concorde, je ne voulais pas me risquer à le faire chez les gars à Hollywood, j'imprimais quelques articles ainsi qu'une photo d'Alaska Sanders que je cachais dans ma chambre dans l'interstice du canapé-lit. J'ignore pourquoi j'éprouvais le besoin de conserver une photo d'Alaska. Peut-être pour me rappeler que le véritable enjeu de cette enquête était cette jolie jeune femme de 22 ans sauvagement assassinée. Peut-être aussi parce que je faisais inconsciemment le lien avec Nola Kellerghan, la jeune fille au cœur de l'affaire Harry Kéber. Le chef Lansdane m'avait confié que cette dernière enquête avait été une forme de rédemption pour Gaal Wood. Celui qui avait envoyé cette lettre anonyme le savait. Quand je n'étais pas occupé à ruminer l'affaire Alaska Sanders, je m'occupais de ce qui restait de la famille Gaal Wood. Perry était l'ombre de lui-même. Déjà d'ordinaire taiseux, il s'était muré dans un mutisme total. Les filles, elles, s'efforçaient de faire bonne figure. Je m'employais à les entourer. Je parlais pour d'eux. Je veillais sur elles. J'essayais d'égayer cette maison, jadis si joyeuse et devenue lugubre. Je me lançais dans ce que je ne savais pas faire, la cuisine. Il y eut d'abord beaucoup de gâteaux à la banane de Tante Anita. Mais il me fallut passer à la vitesse supérieure et m'atteler à la préparation de repas complets. Seul, dans la cuisine des Gaal Wood, j'invoquais Tante Anita. Elle m'inspirait dans mes travaux culinaires. Bientôt, un nouveau fantôme fut à mes côtés, celui d'Hélène Gaal Wood. Je ne sais plus si je m'adressais à elle à voix haute ou intérieurement, mais je lui répétais cette phrase déconcertante de naïveté « Hélène, je voudrais que tu ne sois pas morte ». Et d'un souvenir à l'autre, je vécus le jour où je l'avais rencontrée. 2 ans plus tôt, 2 juillet 2008. C'était en pleine affaire Harry Kéber. L'enquête prenait une mauvaise tournure. Gaal Wood et moi étions allés interroger le père de Nola Kellerghan et l'entretien avait quelque peu dégénéré, essentiellement par ma faute. Devant la maison du révérend Kellerghan, Perry et moi eûmes un vif échange, au terme duquel il m'invita à dîner chez lui. En arrivant devant sa maison, je dis « J'espère que ça n'embête pas votre femme que je vienne à l'improviste. » « Ne vous inquiétez pas, l'écrivain. Elle a un sens de la pitié très développé. »« Merci, sergent. Vous savez me remonter le moral. » Hélène Gaal Wood venait de rentrer du supermarché et déballait de grands sacs de courses dont elle essayait de caser le contenu dans son frigidaire. Perry annonça mon arrivée avec sa délicatesse habituelle. « Chérie, pardonne-moi de t'imposer un couvert supplémentaire, mais j'ai ramassé ce pauvre type dans la rue. Je trouve qu'il ressemble à s'y méprendre au laidron sur la couverture du livre qui traîne sur ta table de nuit, non ?» Elle eut un sourire extraordinaire qui disait tout de sa douceur. Elle me tendit la main. « Quel plaisir de vous rencontrer enfin, Marcus. J'ai tellement aimé votre livre, » me dit-elle. « Vous êtes donc vraiment en train d'enquêter avec Perry ?» « Il ne fait pas équipe avec moi, » s'agaça Perry. « C'est juste un amateur venu me pourrir l'existence. »« Votre mari a exigé que je lui rembourse son exemplaire de mon livre, » confiai-je à Hélène. « Ne prêtez pas attention à lui, » me répondit Hélène. « Il est gentil, au fond. Je proposai de l'aider et sortis des légumes d'un sac. Perry me regarda faire d'un œil goguenard. « Tu vois, » dit-il à sa femme, « on croit qu'il aide, mais en réalité, il fout le bordel. Si tu savais quel foutoir il a mis dans mon enquête. » Hélène se tourna vers moi. « Ça veut dire que vous êtes doué. » Vous voyez l'écrivain, c'est encore la pitié qui parle. Perry n'a pas de coéquipier, poursuivit Hélène. Il ne supporte personne. Combien de collègues a-t-il ramené à la maison ces dernières années? Aucun. C'est parce que je suis très heureux en famille, se justifia Perry en attrapant deux bières dans le frigo et en m'en tendant une. Hélène me décocha un clin d'œil entendu. Vous voyez, Marcus, il vous aime bien.
Je ne vous aime pas, l'écrivain.
« Appelez-moi Marcus, sergent, nous sommes presque amis. »«
Nous ne sommes pas amis. Vous m'appelez sergent, je vous appelle l'écrivain. C'est une relation purement professionnelle. »
Hélène leva les yeux au ciel. « Bienvenue dans la famille Gallowood, Marcus. » Ce soir-là, après le dîner, me retrouvant seul avec Perry sur sa terrasse, je lui dis « Sergent, votre femme est merveilleuse. Son seul défaut est de s'être mariée avec vous. » Gallowood éclata de rire. Malia et Lisa, à qui je venais de raconter ma rencontre avec leur mère, éclatèrent de rire. Nous terminions de dîner. Mon osso buco était tellement raté que nous avions commandé des pizzas. Nous étions juste les trois, Perry n'était pas descendu. Lorsqu'il nous rejoignit finalement, il m'apparut plus sombre que jamais. Les filles devaient retourner en cours le lendemain. En voyant le visage de leur père, je songeais que ce serait mieux pour elles. Perry se servit d'une tranche de pizza qu'il avala en silence. Puis les filles montèrent dans leur chambre et nous nous retrouvâmes, lui et moi, seuls dans la cuisine. Nous n'avions guère eu l'occasion d'être seuls. J'avais le sentiment qu'il m'évitait. Je rangeais les assiettes dans le lave-vaisselle tandis qu'il s'efforçait de caser les cartons à pizza dans la poubelle. « Ça va au recyclage ?» lui fis-je remarquer.
« Je n'ai jamais recyclé. Il y a un début à tout, sergent. »
Il posa les cartons sur le comptoir et disparut en maugréant. La cuisine rangée, je descendis dans ma chambre. Je m'allongeai sur le lit, regardai la photo d'Alaska Sanders, puis je pris en main la lettre anonyme. Elle avait mené Hélène à une découverte. Laquelle ? Je continuais à fixer la feuille comme si un indice allait brusquement en surgir. Soudain, m'apparut une évidence qui m'avait échappé jusque-là. La typographie du message était harmonieuse. Il s'agissait pourtant d'un collage des lettres nécessaires à cette courte phrase « Carré et Donovan sont innocents ». Mais l'œil n'était pas incommodé par cet assemblage. Je me rendis compte alors que le montage avait été fait avec des lettres découpées dans un même journal. C'était un détail curieux. Pourquoi ne pas brouiller les pistes en utilisant différents supports? Comme j'étais couché et que je tenais le message les bras tendus vers le plafond, je finis par le placer involontairement face au plafonnier. Une inscription se révéla alors en transparence de l'une des lettres. En la décollant, j'y découvris au verso cette suite de chiffres et de lettres qui m'apparurent d'abord énigmatiques. 10 Nord. Cette inscription était imprimée de façon perpendiculaire. À quoi cela pouvait-il correspondre? La réponse s'imposa rapidement. Il s'agissait d'un fragment d'adresse. L'adresse d'un abonné à ce journal dont un morceau avait été découpé pour écrire le message à Gallowood. Je tenais enfin ma piste. Le lendemain, je retrouvai Lansdane dans un café du centre-ville de Concord pour lui faire part de ma découverte. « On trouve l'abonné, on trouve l'auteur de ce message, » lui dis-je. Il freina mes ardeurs. « Ne nous excitons pas trop vite, Marcus. Vous ne soupçonnez pas le nombre de cafés, restaurants, cabinets médicaux et que sais-je encore qui prennent des abonnements à des journaux pour leurs clients. La personne qui a fabriqué cette lettre a pu ramasser un journal n'importe où, y compris dans la rue ou même dans une poubelle. Vous imaginez le type qui envoie une lettre anonyme avec son adresse ?»«
C'est à peine visible, » fis-je remarquer.
« Une négligence n'est pas à exclure. » « Enfin, Marcus, qui utiliserait un journal auquel il est abonné pour constituer un message anonyme? Ça n'a pas de sens. »
J'y ai pensé, figurez-vous.
Ça pourrait être quelqu'un qui n'aurait pas accès à d'autres journaux. Quelqu'un qui serait enfermé, par exemple.
Enfermé ? Quelqu'un qui est en prison ? Suggérai-je. Son voisin de cellule, arrêté pour toute autre chose, lui confesse le meurtre d'Alaska Sanders. Notre homme écrit un message anonyme à Galwood.
Les prisonniers ne reçoivent pas le journal, me fit remarquer Lansdane.
Je persistais. Il a reçu un colis emballé dans du papier journal et l'a utilisé pour composer son message.
Le courrier que les prisonniers envoient est contrôlé. La lettre aurait été interceptée.
Pas s'il l'a transmise par le biais de son avocat, fis-je remarquer.
Et l'avocat accepte de jouer les facteurs et dépose cette lettre chez les gars à Lowood?
Je n'y crois pas, Marcus.
Je salue néanmoins votre imagination fertile.
Je suis pourtant convaincu que cette adresse a mené Helen Galwood quelque part.
C'est possible, concéda Lansdane. C'est pour cela qu'il faut essayer de retrouver cette adresse avant de vous perdre en conjecture.
Lansdane était très ambivalent sur son implication. À l'évidence, une partie de lui n'avait aucune envie de se mouiller. Mais il ne pouvait pas non plus ignorer ce qui était en train de se passer. Aussi, lorsqu'il se leva en me disant « Bonne chance dans vos recherches, tenez-moi au courant », j'eus un mouvement d'humeur.
« Bonne chance ?
Comment ça, bonne chance ? Vous allez me planter là et me laisser me démerder.
Marcus, vous me mettez dans une position impossible. Je suis le chef de la police d'État, je ne peux pas être impliqué dans une enquête civile parallèle.
Alors pourquoi vous ne transmettez pas le dossier à l'un de vos services ?
Parce que vous tenez mordicus à ce que Perry ne soit au courant de rien, se justifia Lansdane.
Et puis vous seriez complètement écarté des investigations. Or, je vois bien que toute cette histoire vous travaille.
Chef Lansdane, je vous connais suffisamment pour savoir que vous ne vous encombrez pas de ce genre de considérations.
Il y a une raison pour laquelle vous ne traitez pas cette affaire en interne.
Laquelle ? Dites-le-moi, sinon je fais tout sortir dans la presse.
Lansdane se rassit et soupira.
Vous savez comment Perry vous a toujours décrit, Marcus ? Comme un emmerdeur très sympathique. Je dois lui donner raison.
Je ne veux pas ébruiter cette affaire de lettres anonymes, Marcus, parce que je veux éviter à ce stade des remous et des rumeurs inutiles. S'il y a un doute sur la culpabilité de Walter Carey, cela signifie qu'il faut rouvrir toute l'enquête sur le meurtre d'Alaska Sanders. Avant d'en arriver là, j'ai besoin d'identifier l'auteur de cette lettre anonyme en toute discrétion. Et je sais que vous en êtes capable.
Vous n'allez pas me laisser seul au milieu de ce merdier, chef Lansdane.
Il essaya encore de se défiler.
Je suis chef de la police, j'ai des tonnes d'obligations.
Justement, vous êtes le chef, vous n'avez de compte à rendre à personne. Allez, au boulot!
Pour retrouver l'adresse, Lansdane et moi n'avions guère d'autre option que de trouver toutes celles qui commençaient par 10 Nord. La beauté de la technologie moderne est que quelques recherches sur Internet nous permirent d'établir facilement cette liste. Mais celle-ci se révéla interminable. La quantité innombrable de rues, chemins, avenues, boulevards qui commençaient par Nord à travers le pays nous occuperait pendant des mois. Il nous fallait commencer par délimiter le périmètre de nos recherches et Lansdane suggéra une méthode qui porta ses fruits. Nous savions qu'Helen s'était trouvée vers 22h au Fanny's, de la sortie ouest de l'autoroute 1. Si nous pouvions déterminer à quelle heure elle avait quitté son bureau, le laps de temps écoulé entre les deux nous permettrait de circonscrire notre zone de recherche. Seul Mats Bergson, le patron d'Helen, pouvait demander aux responsables de la sécurité de ses bureaux de nous fournir le relevé des arrivées et départs d'Helen. Comme c'était souvent le cas dans les immeubles de bureaux, les employés avaient chacun un badge qui leur permettait de passer le portique de sécurité donnant l'accès aux ascenseurs. Les allées et venues étaient donc facilement traçables. Je dus cependant insister lourdement auprès de Mats.
Pourquoi avoir besoin de ce genre d'informations ? Me demanda-t-il d'un air circonspect.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est important.
Je n'apprécie pas ce que vous êtes en train de faire, et dans le dos du mari d'Hélène en plus. Je croyais que vous étiez amis.
Et c'est justement parce que nous sommes amis que j'essaie de l'épargner un peu. S'il vous plaît, Mats, je promets de disparaître de votre vie ensuite.
L'argument fit mouche. Il me laissa seul un moment et revint avec un relevé des entrées et sorties d'Helen au cours des dernières semaines. Le jour de sa mort, elle avait quitté le bureau à 18h. C'est dans le salon de Lansdane que nous reconstituâmes la dernière soirée d'Helen. Il avait étalé une carte du New Hampshire sur sa table basse. J'énumérais ce que nous savions. À 18h, Hélène quitte son bureau. À 21h05, elle téléphone à Perry. À 22h, elle débarque dans ce Fanny's à la sortie ouest de l'autoroute 1.
C'est l'embranchement le plus logique pour rentrer chez elle, fit remarquer Lansdane.
Donc, elle est sur le chemin du retour. Mais elle est bouleversée. Elle a visiblement fait une découverte très troublante. Perry ne répond pas au téléphone. Elle ressent les signes avant-coureurs de sa crise cardiaque. Elle avise le Fanny's et décide de s'y arrêter pour reprendre ses esprits. Elle ne sait que faire de l'information qu'elle détient et vous appelle.
Si elle a fait une découverte importante ce soir-là, reprit Lansdane, elle a très probablement voulu prévenir Perry sur le moment.
Elle l'a appelé à 21h05, dis-je. Cela signifierait qu'elle se trouvait à environ une heure de route du Fanny's.
Exact, acquiesça Lansdane, ce qui colle parfaitement avec son départ du bureau à 18h. Si l'on compte le temps de récupérer sa voiture au parking, ainsi que le trafic à l'heure de pointe, elle aura mis environ une heure et demie pour atteindre sa destination, soit vers 19h30.
À ce moment-là, elle tâtonne toujours. Elle étudie sans doute des listes d'adresses, comme nous nous apprêtons à le faire. Elle passe donc encore une heure et demie à arpenter les différentes rues qui pourraient correspondre, jusqu'à sa découverte. Fort de cette hypothèse, Lansdane traça un cercle sur la carte routière qui délimitait un rayon d'une heure de route. C'est dans cette zone que notre travail de fourmi allait pouvoir commencer. Pendant les 10 jours qui suivirent, tous les jours ou presque, après avoir déposé Lisa à l'école, j'arpentais le New Hampshire seul à bord de ma voiture. Ville après ville, village après village, j'écumais les 10 North Street, 10 Norton Street, 10 Northam Boulevard, 10 Norfolk Avenue, etc. Il me fallait prendre le temps d'un arrêt devant chacune des adresses, y planquer un moment dans l'espoir d'y apercevoir un occupant ou d'y déceler quelque chose, mais sans savoir exactement quoi. Mes journées d'enquête se terminaient à l'heure où Malia et Lisa rentraient à la maison. Je reprenais alors mon existence de père de substitution. Perry commença rapidement à s'interroger sur mes absences. J'avais évidemment quelques alibis, une course lointaine, une journée de marche dans la campagne, une virée au centre commercial. Je ramenais même pour preuve un meuble à chaussures totalement inutile acheté en catastrophe. Mais Perry n'était pas dupe. Il se doutait que j'étais occupé à autre chose. Lorsqu'il posait des questions, je m'efforçais de rester évasif, ce qui n'est jamais une bonne stratégie face à un flic tenace. Après 10 jours de recherche infructueuse, il y eut ce jeudi matin où je me rendis à Barrington, une petite bourgade tranquille, à 50 minutes de Concord. La ville comptait une Norris Street. Comme je l'avais fait pour toutes les précédentes adresses, je me garais à proximité du numéro 10. C'était un joli pavillon en briques rouges, semblable à ceux de la rue, séparés les uns des autres par des bandes de gazon bien entretenues. Je m'étais muni d'une paire de jumelles, et les yeux collés au binoculaire, j'observais l'intérieur du salon. Ce que j'y vis me stupéfia. Je voulus appeler Lansdane, mais au même instant, un coup retentit contre ma vitre. C'était un policier. Il me fit signe de baisser ma vitre.
« Je peux vous aider, monsieur ?» me demanda-t-il.
L'agent venait de garer sa voiture derrière la mienne, gyrophare allumé. Accaparé par ce que je venais de découvrir, je n'avais pas vu le véhicule de patrouille arriver. Je ne pouvais expliquer les véritables raisons de ma présence sur Norris Street et le policier considéra, à mon récit confus, que j'étais peut-être un cambrioleur en repérage. Je fus conduit au poste de Barrington pour un contrôle approfondi. L'affaire fut traitée par le chef de la police, le capitaine Martin Grove, un bonhomme ventru et dont le mouvement des lèvres faisait danser une petite moustache.
« Je prends le relais parce que vous êtes une célébrité », m'annonça le capitaine Grove. « On a regardé, vous êtes un écrivain connu et tout ça. Qu'est-ce qui vous amène à Barrington ? On n'aime pas trop les problèmes par ici. »
« Moi non plus, capitaine, le rassurai-je. Je ne suis pas venu dans votre ville pour en causer. »
« On me dit que vous faisiez des repérages. Vous êtes comme ces cinglés de Hollywood qui commettent des vols parce que ça les excite.
Je suis ici pour une enquête confidentielle. » Il pouffa.
« Je crois que vous racontez des farces. »
« Si par farce vous voulez dire mensonge,
je vous suggère d'appeler immédiatement le chef Lansdane de la police d'État du New Hampshire.
On va commencer par vous faire une prise de sang pour voir si vous n'avez pas pris de la drogue et tout ça.
Capitaine Grove, je vous déconseille fortement de me mettre une aiguille dans le bras. Prenez votre téléphone et appelez le chef Lansdane.
Il fallut que Lansdane vienne en personne à Barrington pour me sortir de ce mauvais pas. Après qu'il m'eut récupéré, il me conduisit sur Norris Street. Il se gara derrière ma voiture et je lui dis «
Regardez par la fenêtre du salon. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de quelqu'un qui aurait été enfermé quelque part. »
Il observa un instant, puis murmura
« Je vous dois des excuses, Marcus. »
Il y avait dans le salon un homme en chaise roulante qui lisait le journal. Il se tenait de dos, si bien que Lansdane ne put voir son visage. Un homme qui ne pouvait pas sortir de chez lui ou alors avec beaucoup de difficulté à en juger par les marches d'escalier qui menaient de la porte de la maison au trottoir. À nouveau, on toqua contre la fenêtre. C'était une vieille dame cette fois. Je baissai ma vitre.
« Foutez le camp !» me dit-elle. « Ou j'appelle les flics !»«
Nous sommes la police !» lui répondit aimablement Lansdane, qui était en uniforme. Elle sembla horrifiée de sa méprise.
« Navré !» dit-elle. « Désolée, j'avais pas vu. Vous êtes là à cause de ce qui s'est passé l'autre jour ?»«
Que s'est-il passé l'autre jour ?» l'interrogeai-je.
« Une femme noire s'est pointée chez les voisins. C'était un peu avant 21h. Je l'avais repérée dans sa voiture, une Toyota Camry couleur grise qui scrutait la maison. J'ai rien contre les noirs, mais j'ai trouvé ça bizarre. Alors j'ai bien observé. Et la noire, elle est finalement allée toquer à la porte. Il y a eu un scandale, elle criait. La voisine criait aussi. Je m'apprêtais à appeler la police, mais elle est partie.
Et c'était quand, ça ?
Il y a environ un mois.
Je toisais la vieille avec mépris. Vous ne seriez pas un peu raciste ?
Non, j'ouvre l'œil, c'est tout. Je veux que mon quartier reste bien tranquille. Il y a tellement de cambriolages ces temps-ci. Puis vous êtes blanc, vous. J'ai appelé la police quand même. J'ai rien contre les noirs. Je veux pas de grabuge, c'est tout.
L'affreuse voisine parlait encore, mais je remontai ma vitre pour ne plus l'entendre. Tandis qu'elle poursuivait son soliloque, je me tournai vers Lansdane. C'était Hélène. Elle conduisait une Toyota Camry grise. Hélène était ici le soir de sa mort. Une fois la voisine rentrée chez elle, Lansdane sortit de voiture et se rapprocha de la maison en question. Il regarda le nom sur la boîte aux lettres et revint aussitôt. Il s'assit sur le siège passager, blême.
« Allons, chef Lansdane, que se passe-t-il ? » le pressai-je.
« Le nom sur la boîte aux lettres, c'est Kaczynski. »«
Kaczynski ?»
répétai-je sans comprendre où il voulait en venir.
Kaczynski est la seule personne encore en vie qui était présente en salle d'interrogatoire le soir de la mort de Vance et Walter Carré.
Après avoir découvert que Nicolas Kaczynski était probablement l'auteur de la lettre anonyme, je rentrai aussitôt de Barrington à Concord pour tout raconter à Perry. Mais au moment où j'arrivais chez les gars à Lowood, il venait de recevoir un appel de Mats Bergson.